En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
À l'occasion du 150e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et le Japon, l'Académie des inscriptions et belles-lettres a organisé une journée d'études le 23 mai 2008. L'Académie des inscriptions et belles-lettres a compté en son sein plusieurs japonologues de renom international, tels Bernard Franck, Serge Gélisseff, mais aussi des spécialistes reconnus du bouddhisme d'Extrême-Orient, à l'instar de Paul Démiéville. L'Académie perpétue ainsi, avec vigueur, une tradition bien ancrée en France de dialogue avec les savants du Japon. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la communication de François Masset, professeur à l'Institut national des langues orientales, intitulée « Georges Dumézil et la mythologie japonaise ». Retrouvons François Masset en grande salle des séances de l'Institut de France.
Monsieur l'ambassadeur, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le chancelier, monsieur le président, chers collègues, chers amis, je vous remercie de m'avoir donné l'honneur de parler devant vous. C'est sur la suggestion de Jean-Noël Robert que je me suis lancé dans un exercice périlleux de parler donc de Dumézil et de la mythologie japonaise. Quel rapport peut-il y avoir entre Dumézil, l'homme des trois fonctions du monde indo-européen, et les mythes japonais ? Je n'en sais rien a priori. Mais ayant contracté une forte dette envers l'œuvre de Dumézil durant ma formation dans la science des mythes, c'est pour moi une joie de relever ce défi. Cela me permettra de nouer un dialogue par-delà le temps avec un maître que je n'ai jamais pu rencontrer. Si Georges Dumézil est surtout connu comme un spécialiste de la mythologie comparée dans le cadre précis des peuples rattachés aux langues indo-européennes, il fut aussi d'une curiosité toujours en éveil. Ses travaux sur les langues du Caucase sont perpétués dans un centre qui porte toujours son nom. On sait aussi qu'il alla jusqu'à Cusco pour étudier le théâtre quechua. Or, à la fin de sa vie universitaire, il envisage de se rendre au Japon comme directeur à la maison franco-japonaise. Le projet ne s'est pas fait, mais il voulait y étudier la fonction guerrière au Japon. Pourtant, si plusieurs personnes qui furent proches de lui à ce moment-là m'ont confirmé son intérêt pour le Japon et ses mythes, je n'ai jamais rien lu de lui concernant cette question. Dans le petit monde des disciples qui assistaient régulièrement à son séminaire, aux côtés de Georges Charachizé ou de Marcel Détienne, se trouvait Yoshida Atsuhiko, jeune helléniste japonais. Croisant ses compétences d'helléniste et de comparatiste, Yoshida écrivit plusieurs articles en français sur la présence des trois fonctions dans le monde grec, présence que Dumézil lui-même avait désespéré y trouver. Il publia en 1964 la structure de l'illustration du bouclier d'Achille, qui reste un article le plus célèbre sur ce thème. Ou encore en 1965, survivance de la trifonction fonctionnelle, de la tripartition fonctionnelle en Grèce. Mais surtout, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il écrivit un long essai, publié en trois livraisons dans la Revue d'Histoire des Religions entre 1960 et 1963, intitulé « La mythologie japonaise, essai d'interprétation structurale ». Cet essai sera repris en 1977 de façon condensée dans la Revue Diogène, sous le titre « La mythologie japonaise et le système trifonctionnel indo-européen ». En dehors des articles de la Revue d'Histoire des Religions et de Diogène, l'analyse des mythes japonais au travers de la grille de lecture trifonctionnelle n'a pas eu, à ma connaissance, d'autres échos en France, sauf longtemps après quelques articles dont je vous parlerai plus tard. Pourquoi une telle absence ? Longtemps, il n'exista, à vrai dire, que peu de spécialistes de la mythologie japonaise en France, et pour être franc, ils sont encore peu nombreux. De plus, la majorité des japonisants spécialistes du Japon ancien ne voyaient pas d'un bon œil des analyses qui s'éloignaient trop d'une approche classique purement philologique. La situation au Japon fut totalement différente. Pendant les années 70 et 80, on observa une intense activité académique, mais aussi de publications tournées vers le grand public, tournant autour des mythes japonais. En effet, c'est durant ces années que le souvenir de l'exploitation de la mythologie nationale à des fins de propagande ultranationaliste s'estompant, les études sur ce sujet ont pu renouer avec les recherches de l'avant-guerre, qui elles-mêmes avaient entamé un dialogue fructueux avec les méthodes employées en Occident sur le traitement des mythes. Pour ne citer qu'un exemple, Matsumura Takeo rendait déjà compte des premiers ouvrages de Dumézil en 1941. Il présentait alors Dumézil à côté de Marcel Mauss, Henri Hubert, Lucien Lévy-Brulle, et il y citait sa légende sur les Nartes, le crime de Lemnienne, la question des centaures. Le succès de la méthode humusilienne dans les années 70 au Japon n'est donc pas entièrement surprenant. Il avait été préparé par une longue pratique de l'expérimentation des méthodes d'analyse utilisées par les chercheurs occidentaux. Il faut toutefois préciser que ceux qui vont se lancer dans ce type de recherche ne sont pas, pour la très grande majorité, des spécialistes des classiques japonais qui ont conservé les mythes, à commencer par le Kojiki ou le Nihonshoki. Yoshida a d'abord eu une formation d'helléniste avant de devenir un spécialiste de la mythologie comparée. Obayashi Taliyo, 1929-2001, l'autre grande figure des études dans ce domaine, après des études d'économie, se concentra sur l'ethnologie de l'Asie du Sud-Est. Ce n'est que dans un second temps qu'il s'intéressa au Japon et à ses mythes. Alors que les spécialistes des textes anciens, à quelques exceptions notables comme Saigo Nobutsuna, ont longtemps éprouvé une certaine répugnance à se servir des outils conceptuels venus d'Occident. L'œuvre de Dumézil a donc marqué la recherche japonaise sur les mythes à partir des années 70, au Japon même. C'est-à-dire au moment où les travaux de Lévi-Strauss vont commencer à être aussi assez bien connus au Japon. Lévi-Strauss lui-même s'y rendra assez curieusement, même si Obayashi et Yoshida se réfèrent aussi à Lévi-Strauss, ce sont bien les schémas dumézilien qui ont eu leur préférence. L'analyse structurale de type Lévi-Straussien n'a pas connu le même développement. En japonais, on ne cite le plus souvent que deux auteurs, Kitazawa Masakuni et sa cosmologie du mythe japonais, et je m'excuse, et moi-même donc pour les structures du mythe du Kojiki. Le premier en 91, le second en 89. Il faut ajouter en français l'ouvrage d'Alain Rocher sur mythe et souveraineté au Japon en 97. Si Dumézil eut plus de succès que Lévi-Strauss au Japon, dans l'analyse structurale, ce fut en partie une histoire de liens personnels, ceux de Yoshida avec son maître Dumézil. Mais plus profondément, un sentiment de familiarité avec une méthode reposant sur des sources écrites et la philologie. Lévi-Strauss s'était interdit d'aborder les mythes mis par écrit et ceux produits par des sociétés complexes. C'est ainsi qu'il s'abstint d'utiliser les mythes Inca, Maya ou Aztèques dans sa vaste symphonie que constituent les mythologiques. Au Japon, ce fut donc le versant dumézilien du structuralisme qui l'emporta. Obayashi Taliyo publia en 1975 « Structure des mythes japonais », puis en 1975 toujours « Mythes et sciences des mythes ». En 1984, les mythes de la royauté en Asie orientale, Japon, Corée et Ryukyu. Mais ce sont surtout les ouvrages de Yoshida Hachiko qui suivent au plus près le schéma dumézilien. En 1974 paraît « Mythes japonais et mythes européens, essai de l'analyse structurale ». Puis, en 1975, « La mythologie comparée aujourd'hui, Dumézil et son influence », ouvrage collectif comprenant des chapitres de Yoshida, Obayashi et des traductions de textes de Vian, Louis Gernet, Vernant, Benveniste. Il y aura ensuite, en 1976, les courants originels des mythes japonais. Yamato Takeru et Okununushi essaient de mythologie comparée en 1979. La figure originelle d'Amaterasu en 1980. Les deux duméziliens, donc Obayashi et Yoshida, vont écrire en collaboration en 1981. Dieu de l'épée, héros de l'épée, recherche comparative sur le mythe de Takemi Kazuchi. Après une intense production pendant une dizaine d'années, la mode indo-européenne s'est estompée. Yoshida, par exemple, s'est tourné vers une vision plus centrée sur le Japon avec un ouvrage sur la mythologie de l'époque Jōmon, en 1987. Mais en 2004, une de ses disciples a repris le flambeau sous un titre un peu trompeur, intitulé donc « La science des mythes et les dieux du Japon », Hirafuji Kikuko présente avant tout une synthèse des travaux de Yoshida et Obayashi, relative aux travaux sur les trois fonctions au Japon. À mon grand âme, le structuralisme Lévi-Straussien est expédié en trois lignes. La thèse sur laquelle reposent les travaux des dumézilien japonais est assez simple. La structure, c'est une affirmation, la structure trifonctionnelle de l'idéologie indo-européenne se retrouve clairement dans les mythes japonais. La première preuve en serait la présence de trois grands dieux qui couvrent chacun un des domaines du système trifonctionnel. Dans cette optique, Amaterasu, déesse solaire, maîtresse de la haute plaine céleste, ancêtre de la famille royale ou impériale, appartient bien évidemment à la première fonction, la fonction sacerdotale et de souveraineté. Son frère, le bouillant et incontrôlable Susanoo, qui bouleverse les cultures mais qui dompte le monstre à 8 têtes, serait l'illustration de la deuxième fonction, la fonction guerrière. Enfin, le grand dieu d'Izumo, le maître du grand pays, Okuninushi, guérisseur, semeur de graines, collectionneur de femmes, conviendrait parfaitement d'être de la troisième fonction, celle des producteurs, des artisans, des cultivateurs. Bon lecteur de Dumézil, les auteurs ne sont pas contentés de cette première triade. Ils ont rapproché la division des dieux du panthéon germanique en As, première et deuxième fonction, et Van, troisième fonction, des deux catégories des divinités de la tradition japonaise, les dieux du ciel et les dieux du pays, Amatsukuni, Kunitsukuni. Dans les deux cas, l'affrontement entre les deux peuples divins se termine par une alliance qui illustre leur complémentarité. Ils ne pouvaient pas non plus passer à côté des trois régalias des souverains japonais, les Sanchu no Shinki, le miroir, Yata no Kagami, l'épée, Kusanagi no Tsurugi, le joyau, Yasakuni Magatama, qui correspondrait terme à terme aux trois fonctions. L'analyse se fait plus subtile en présentant le domaine de compétence d'Amaterasu. Yoshida la range du côté mitrien de la souveraineté, classant par contre-coup Ame no Minakanushi, le premier dieu apparu au commencement du monde, sur le versant varunien. Les deux divinités qui lui succèdent, Takami Musubi et Kami Musubi, qui eux vont agir de concert avec Amaterasu, sont mis en regard avec Alyaman et Baga, auxiliaires de Mitra dans la tradition védique. Il fallait aussi tenir compte d'une difficulté majeure. Amaterasu, la divinité solaire souveraine, est une déesse. Ce cas de figure ne rentre pas dans le cadre du schéma indo-européen. Mais Yoshida explique la situation singulière d'Amaterasu dans le schéma trifonctionnel en la rapprochant des déesses polyvalentes mises en lumière par Dumézil, dont le prototype serait l'iranienne Anahita, déesse dont la sphère d'influence recoupe les trois fonctions. L'autre difficulté que ne pouvait ignorer un disciple de Dumézil comme Yoshida, c'est la position du Japon par rapport au monde indo-européen. Dumézil avait bien pris la précaution de circonscrire son enquête à des sociétés ayant parlé une des langues indo-européennes ou ayant été en contact direct avec de telles sociétés, comme cela se produit dans le Caucase ou en Asie orientale, en Asie centrale. La solution proposée est encore assez simple. Les plaines d'Asie, loin d'être un obstacle, furent un extraordinaire couloir par où transitèrent hommes, marchandises, inventions et donc, pourquoi pas, mythes et idéologies. Le point de départ serait les Scythes. Les Ossètes, qui transmirent la légende sur les Nartes, formeraient un maillot intermédiaire. À l'autre extrémité, les royaumes coréens et leurs mythes d'origine représenteraient la dernière étape avant le Japon. Le lien entre les derniers maillons serait un mystérieux peuple de cavaliers, le Kiba Minzoku, dont l'existence expliquerait l'émergence des deux premières formes étatiques au Japon, selon Egami Namio. J'ignore malheureusement ce que Dumézil pensa de ces hypothèses. Quoique leur résumé puisse le faire penser, on ne peut pas les réfuter d'un revers de main. Il existe à l'évidence un certain nombre de faits troublants. Ainsi, le passage à la légende sur les Nartes, qui raconte les aventures de Satana, évoque le mythe de la caverne des textes japonais. Comme Amaterasu, Satana doit affronter un cheval dans un contexte à forte connotation sexuelle. Les deux héroïnes deviennent mères sans avoir enfanté, l'une tirant un enfant d'un rocher, l'autre en offrant des tabacs et en s'enfermant dans un rocher par la suite. À propos du héros Yamato Takeru, Yoshida interprète de façon convaincante le meurtre de son frère, puis ses combats contre Kumaso Takeru et Izumo Takeru, et enfin son union avec Miyazuhime, comme une version japonaise des trois péchés du guerrier, trois types de péchés concernant chacun une des trois fonctions, comme l'avait montré Dumézil dans ses aspects de la fonction guerrière chez les Indo-Européens. En tuant son frère, Yamato Takeru se charge d'un crime particulièrement impie, relevant de la sphère religieuse et donc de la première fonction. En vainquant Kumaso Takeru et Izumo Takeru par des ruses, il se déguise en fille par exemple, il atteint à l'honneur des guerriers. En s'unissant avec Miyasuhime, alors qu'elle a ses règles, il va à l'encontre de la morale commune qui garantit les unions fécondes. Après de 50 ans de distance, donc les premiers articles de Yoshida, et malgré les nouveaux éclairages apportés et les nuances données dans le dernier ouvrage de Madame Hirafuji, Je ne pense pas que l'on puisse encore poser la question de la structure trifonctionnelle des mythes japonais. Les rapprochements sont certes troublants, mais il en existe aussi troublants avec d'autres mythes grecs, non interprétables dans l'optique trifonctionnelle, et les mythes amérindiens. Le parallèle, par exemple, entre le couple Déméter-Bobo et celui que forment Amaterasu et Amenozume peut être fécond, sans avoir recours à l'idéologie indo-européenne. D'autre part, Susanoo représente un très bel exemple du bébé pleurard que décrit Lévi-Strauss dans ses mythologies. Et pourtant, il est difficile de trouver une parenté entre le Japon du 8e siècle et les sociétés amazoniennes étudiées par Dumézil. En bref, donc, il ne me semble pas possible de postuler une parenté aussi lointaine soit-elle entre les mythes japonais et les mythes indo-européens. Plus précisément, la triade dégagée par Yoshida qui comporterait Amaterasu, Susanoo, Okuninushi n'apparaît comme telle dans aucun texte japonais, qu'il soit mythique ou rituel. On ne peut donc observer l'ordre canonique Jupiter, Mars, Quirinus. De plus, le caractère guerrier de Susanoo est à mon sens forcé. Il est certes violent, mais il n'apparaît jamais comme le dieu de la guerre ou des guerriers. Les clans renommés comme spécialistes de la chose guerrière, comme les Mononobé ou les Kume, se réclamaient d'autres ancêtres divins. Take no Mekazushi, autre divinité rattachée à deuxième fonction par Yoshida, n'entretient aucun rapport avec Susanoo. Par contre, les mythes affirment sans équivoque une parenté directe entre Susanoo et Okuninushi, au point, donc le dieu de la troisième fonction, au point que l'on n'est pas sûr que la divinité célébrée à Izumo soit bien Okuninushi et non pas Susanoo, dont le nom se trouve sur l'un des grands tolis à l'entrée du sanctuaire de Izumo. L'autre série symbolique, celle des régalia, est certes bien attestée, et ce dès le Kojiki. Pourtant, dans ce texte, l'ordre n'est pas celui qu'on pourrait s'attendre dans une énumération de type trifonctionnel. Quand Amaterasu remet à son petit-fils les objets qu'il emportera sur Terre, elle lui donne en premier les tamas, puis le miroir et enfin l'épée. De plus, quand auparavant son père Izanaki avait décidé de lui confier le gouvernement de la haute plaine céleste, il lui avait donné son propre collier de tamas. Les deux autres enfants, Tsukuyomi, qui eut en partage la nuit, et Susanoo, la maîtrise de la plaine océane, ne reçurent rien de tel. Le lien entre tama et richesse n'est donc pas aussi évident qu'on pourrait le penser. Il pourrait être interprété tout aussi bien comme le gage du pouvoir ou le signe d'une filiation légitime. La question de la transmission demeure cruciale. En effet, l'hypothèse du peuple cavalier, pour séduisante qu'elle soit, est maintenant controuvée. Les archéologues ont démontré son impossibilité. Si le cheval fait bien son entrée, une entrée remarquée dans les tombes monumentales au Japon, ce ne fut pas à la suite d'une invention, de l'invasion d'un peuple venu des steppes. On serait donc devant un constat d'échec. Cette impression doit pourtant être nuancée. Le rapprochement opéré entre Yoshida et Yamato Takeru, et l'idéologie indo-européenne illustre indirectement la fécondité de la démarche dumézilienne. En effet, Yamato Takeru n'appartient pas au temps des dieux, au mythe à proprement parler. Ce héros tragique appartient au temps des hommes. Il est fils d'un souverain pourvu de dates d'après le Nihon Shoki, même si ces dates sont sujettes à caution. S'appuyant sur des ouvrages comme Mythe et épopée, Yoshida quitte la stricte définition de la mythologie pour inclure dans sa recherche les parties du Kojiki qui appartiennent à l'épopée ou au roman. Ce fut une avancée considérable par rapport aux travaux antérieurs, comme ceux de Matsumura Takeo. Ce dernier, dans son grand œuvre « Essai sur les mythes japonais », avait entrepris un immense travail de confrontation entre mythes japonais et ceux du reste du monde. Mais il s'était strictement limité au temps des dieux, laissant de côté des personnages aussi importants que Yamato Takeru, Jingu ou bien Ojin, et les récits qui les concernent. Un autre rapport se révèle encore plus important. À partir de l'arrivée au Japon des instruments occidentaux d'analyse des mythes, la grande majorité des études s'était concentrée sur des parallèles et des confrontations ponctuelles. Tel mythe japonais rappelait tel mythe étranger. Pour s'en tenir au cadre indo-européen, on avait rapidement fait le rapprochement entre le mythe d'Izanami et celui d'Orphée et d'Eurydice. D'autres rapprochements ont été faits avec des mythes indonésiens ou polynésiens. La conclusion de ce type de comparaison se révélait assez décevante. On tirait souvent parti de tels rapprochements pour affirmer une filiation ou une forte affinité entre le Japon et telle partie du monde, le sud-est asiatique ou même la Grèce. Rapprochement qui demeurait fragile puisque seuls quelques mythes étaient confrontés. La conséquence de cette comparaison tout azimut fut de ne considérer les mythes et les récits japonais que comme des recueils de traditions d'origine diverses formant une sorte de patchwork sans cohérence interne. L'approche du musélien, à partir d'un a priori diamétralement opposé, donnait à l'ensemble des mythes japonais une vision cohérente du monde. Par le biais du comparatisme, il retrouvait les tenants d'une vision plus traditionnelle pour qui les anciens écrits reflétaient l'âme authentique des Japonais. Le choix de la cohérence s'accompagnait d'une grille de lecture qui, pour discutable qu'elle puisse paraître, avait l'immense avantage de donner sens et une consistance certaine aux grandes figures des mythes japonais. On quittait les interprétations naturalistes, les mythes solaires, pour la souveraineté ou la fonction guerrière, ce qui donne beaucoup plus à penser. Pour conclure, j'aurais voulu donner une citation de Dumézil, mais je n'ai plus le temps. C'est dans cette citation, donc, encore maintenant, les spécialistes des mythes, qu'ils soient du Japon ou d'ailleurs, pourraient y trouver leur miel, pour parler un peu familièrement. Dans cette citation, donc, Dumézil donne la pensée mythique comme une pensée qui réfléchit le monde. De ce point de vue-là, il est assez proche de Lévi-Strauss. Et c'est cette citation en pointillé que je terminerai mon exposé.
Vous venez d'entendre la communication de François Massé, professeur à l'Institut national des langues orientales, intitulée « Georges Dumézil et la mythologie japonaise ». Cette communication est extraite de la journée d'études organisée par l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 23 mai 2008 à l'occasion du 150e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et le Japon.